Donc c'est d'engagement que l'on va parler aujourd'hui, parce que c'est au fond le cœur du sujet. Hein, on l'a vu, le discernement n'est pas juste le fait de vouloir discerner pour le plaisir de discerner, mais le discernement vise l'action. Hein, et on me faisait remarquer à juste titre hier que la pratique des vertus vise l'action bonne. Hein, et donc on discerne des choses pour faire des choses bonnes. Et c'est parfois difficile de choisir entre deux choses, entre le bon et le bon. C'est ça qui est souvent le plus difficile. Et donc de méditer un peu sur ce qu'est un engagement. Alors je vous ai mis le plan au tableau. Tout d'abord, pourquoi s'engager? Parce que vous avez peut-être pris conscience que dans... Je veux dire, dans l'ADN du chrétien, eh bien, la question de l'engagement revient souvent. Peut-être dans vos familles, que ce soit à travers, ou vous-même, dans votre éducation, à travers le scoutisme, qui est quand même une grande œuvre, d'éducation de la jeunesse, à travers des aumôneries, à travers des associations, aussi dans la société civile. Hein. Eh bien, en tout cas... vous entendrez souvent des appels au bénévolat, des appels à vous venir soutenir aussi telle ou telle action, et où vous avez aussi vous-même eu l'occasion de vous engager. Je pose toujours la question, avant ce grand engagement qui est le mariage, qu'est-ce que vous avez pris comme petits engagements qui vous ont appelé à une fidélité aussi et qui vous ont appelé à un dépassement de vous-même, voilà. Donc ça fait quand même partie de l'ADN de l'Église que cet engagement, c'est souvent, alors selon les familles, c'est reçu plus ou moins activement, mais bon, en tout cas, ça fait partie de son ADN. Alors pourquoi s'engager? Premièrement, on pourrait dire pour se donner, pour recevoir. Le fait de s'engager, de donner une parole, c'est aussi pour me donner, c'est l'occasion de me donner. L'engagement est orienté au don de soi-même. Le don de soi-même, qui est au fond le cœur même de la vie chrétienne, c'est donner et recevoir. Aimer, c'est tout donner. Hein. Vous connaissez la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est donner, c'est tout donner, et se donner soi-même. Voilà. L'engagement, c'est une manière concrète de se donner soi-même. Mais c'est une manière concrète aussi de recevoir. Et on y pense assez peu, de recevoir de l'autre. Et vous-même, dans la dimension de couple, vous êtes invité à rentrer dans une logique de don. Et le mariage, c'est ça, c'est une logique de don. Et de don de toute la vie. Et de don de la vie, à travers les enfants, s'ils vous sont donnés, mais aussi le don de toute la vie. Donc, recevoir, il y a quelque chose que vous recevez dans le fait de cet engagement. Vous recevez de l'autre ce qu'il est. Et vous recevez peut-être de vous-même, vous découvrez en vous-même des choses nouvelles que la vie en couple a mises en lumière, et parce que ça fait un effet miroir. L'autre est un miroir pour moi, donc du coup, parce qu'il est un miroir, il me fait découvrir un certain nombre de choses. Voilà, donc cet engagement, je trouve, c'est donner et recevoir. Autre point, s'engager, c'est aussi apprendre à mûrir, on l'a vu hier, humainement et spirituellement. Si je suis jamais sollicité dans le don et que je reste, voilà, il y a toujours un risque d'égoïsme et d'égocentrisme. D'égocentrisme, c'est-à-dire que d'entre-soi. Et donc, comme on est entre nous, on ne voit pas forcément les points à travailler au point de la maturité. Et c'est souvent dans le contact avec la famille de l'autre où vous dites, tiens, ouais, oui, c'est vrai, la famille de l'autre ne fonctionne pas comme ma famille. Et donc, du coup, j'ai à travailler tel ou tel point. Et donc, je pense que c'est cette maturité humaine et spirituelle qui vient de l'engagement, quoi. C'est pour mûrir, c'est pour grandir que vous sont proposés. Alors, bien sûr, le grand engagement du mariage, mais à l'intérieur de l'engagement du mariage, il y a des tas d'autres engagements. Et on voit bien notre frère Adolfo, c'était Adolfo, c'est ça. Adolfo, voilà, hier, il a fait ses premiers vœux. Ben, il s'engage à travers les vœux. À une conversion, hein, c'est ce qu'on dit Saint Benoît, la conversion des mœurs, la conversion de son caractère. Il s'engage à ça. Hein, c'est ça la vie religieuse, c'est. On est en chemin de conversion. On n'est pas parce qu'on est religieux qu'on est arrivé. Non, on démarre. Et c'est pas parce que on fait ses vœux religieux que l'on pratique déjà parfaitement la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est je m'engage pour pratiquer. Non pas parce que je suis arrivé, c'est pas parce qu'on s'engage dans le mariage, parce qu'on s'aime déjà parfaitement, mais je m'engage à grandir dans l'amour. et à avancer. Et donc, ça c'est cette maturité. Mais aussi, pour exercer, autre point, pour exercer ma liberté. Et là, je trouve qu'il y a souvent un contresens qui est fait, une sorte de sophisme. On dit, voilà, je veux être libre, donc je ne m'engage pas. Et vous entendez ça souvent. Et à propos du mariage, singulièrement, on va dire, le mariage, voilà, tu te mets les menottes, voilà, maintenant c'est fini, la belle vie, etc., grosso modo, tu vis tes dernières années ou tes dernières heures de liberté. Après, c'est... Et c'est là, je trouve, il y a un sophisme. Un sophisme, c'est-à-dire c'est un mauvais raisonnement, un raisonnement qui est à l'envers. Notre liberté, c'est une liberté pour. C'est une liberté qui s'engage. Comment est-ce que je vois que je suis libre? Sinon, en posant une parole qui me donne, dans laquelle je me donne moi-même. C'est ça, plus je m'engage, plus je suis libre. C'est l'inverse de ce que l'on peut entendre habituellement. Plus je m'engage, plus j'exerce ma liberté. Celui qui ne s'engage pas, il n'exerce pas sa liberté. C'est une liberté, voilà, comme inconditionnée, et ça peut être, on verra, une des difficultés dans l'engagement, ce vouloir rester absolument libre de tout, sans aucune contrainte, et c'est très dans l'air du temps. Vous voyez, ça, c'est très dans l'air du temps. Et ça fait des gens qui sont, au fond, esclaves d'eux-mêmes. Ils ne sont pas libres, ils sont esclaves d'eux-mêmes. Et donc, je trouve c'est beau de voir que l'engagement, c'est une école de liberté, parce que vous avez appris à poser des choix. Et donc, le plus grand choix que vous ferez de votre vie, c'est l'engagement dans le mariage. Il n'y a pas plus grand. Alors, c'est vrai que ça peut être un stressant, je peux le concevoir, mais c'est le plus grand choix que vous ferez de votre vie. Et donc, du coup, qui est précédé par d'autres choix. Et comme je vous le disais hier, moi je me méfie beaucoup des non-choix. Des non-choix, des situations de fait, je pense à la vie commune, etc., qui est souvent un non-choix, parce qu'on voit, bah oui, on va pas payer de loyer parce qu'on est dans la même ville, du coup, hop. Mais c'est un non-choix, du coup, c'est quoi? C'est l'argent qui dirige ton couple, c'est ça? C'est quoi? Vous voyez, donc, au contraire, je trouve ce qui est beau dans l'Église et dans la préparation au mariage, c'est que c'est pour certains couples, c'est la première fois où on les invite à une vraie réflexion sur eux-mêmes et à poser des actes délibérés, hein, des actes vraiment choisis. Dernièrement, dernier point sur ce premier chapitre de pourquoi s'engager, c'est pour être heureux. L'engagement est une des clés du bonheur. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est être heureux si ce n'est rendre les autres heureux? Et dans l'engagement, il y a cet engagement à rendre les autres heureux. C'est important de vous posez-vous la question depuis que vous êtes ensemble, et moi je la pose souvent aux fiancés, et je la pose aussi aux témoins. Est-ce que vous avez vu la personne dont vous êtes le témoin rayonner davantage depuis qu'elle est en couple avec un tel et un tel. Est-ce que ça lui a donné du bonheur? Ou au contraire, est-ce qu'elle s'est cette personne s'est éteinte, s'est recroquevillée sur elle-même? C'est un critère aussi de discernement. L'engagement vise le bonheur. Alors, ça c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, c'est qu'est-ce qu'un engagement? Un engagement, c'est l'activité d'abord de l'intelligence. Donc l'importance du discernement, j'y reviens pas. Est-ce que je suis capable d'assumer? Est-ce que j'ai les aptitudes? Est-ce que j'ai le temps? Quoi donner? À qui donner? À quel moment donner? On a vu cette question de progressivité. Bien souvent, il y a des relations qui vont très vite, très tôt. Hein, et ça ne rend pas service. Le tout de suite est un tue-l'amour. Hein, donc ça ne rend absolument pas service au couple. Et donc, il y a une vraie activité de l'intelligence de dire quoi donner, à qui donner, à quel rythme donner. Et le rythme de l'autre aussi n'est pas le mien. Et donc, se mettre d'accord dans les rythmes. Et attention à la dispersion qu'il peut y avoir dans les engagements, parce qu'il y en a qui sont très à multiplier les choses. Et donc, du coup, il n'y a plus forcément. C'est-à-dire que une fois que vous êtes en couple, votre couple devient prioritaire sur tout. Ça, les autres choses sont à redimensionner à l'aune de votre couple. L'autre n'est pas juste la variable d'ajustement de mon agenda. Ça me paraît, bon, ça paraît une évidence, mais il faut toujours répéter les évidences. C'est-à-dire que vous vous occupez, et singulièrement quand vous serez dans l'étape de préparation au mariage, vous vous occupez d'abord de votre couple, hein, de le construire, de prendre du temps pour ça, parce que ça ne se fera pas sans vous, évidemment, et ça demande du temps et de l'énergie. Donc, un travail, une activité de l'intelligence, donc faire que ce soit prioritaire. Une activité, j'allais dire, aussi de la volonté. Un autre point, c'est qu'est-ce qu'un engagement? C'est s'engager, c'est le fruit d'une volonté qui se met en mouvement. On vous posera la question, est-ce que vous voulez, le jour, si vous êtes devant monsieur le curé, devant l'autel, est-ce que vous voulez? Donc c'est bien la volonté, donc on éduque sa volonté, et sa volonté a aussi, dans l'engagement, ça éduque la volonté au courage, parce que dans tout engagement, forcément, il y a de l'adversité, il y a des choses qui ne vont pas bien, je ne sais pas si vous avez été, pourquoi, président d'une association, ben voilà, il y a toujours un qui pense que c'est ce que vous faites, c'est pas bien, etc., etc. Du coup, est-ce que je persévère, ou est-ce que je me décourage dès la première critique venue? Et donc, plus je m'engage, plus cette volonté, elle se fortifie. Hein, et donc, voilà, ça me paraît vraiment. C'est un acte de la volonté. Et puis, c'est un acte aussi de toute la personne, en fond. Hein, à la fois de la sensibilité, du corps, hein, des dons naturels et spirituels que je mets au service de l'autre. S'engager, c'est ça. C'est se donner, alors, progressivement. Mais je trouve ce qui est beau, c'est de dire qu'est-ce que vous êtes appelé à travers le mariage à grandir dans l'amour. C'est-à-dire que, parce que bien souvent, on voit le mariage comme le sommet de l'amour, et ensuite, ça se casse la figure jusque dans la vie éternelle, justement, pratiquement. Donc, du coup, voilà, non, ensuite, on fait ce qu'on peut, on gère. Non, non. Vous êtes au ground zero, si j'ose dire, hein, au jour du mariage, et vous montez. C'est ça, vous êtes amené à grandir. Qu'est-ce qui fait que dans 10 ans, vous vous aimerez davantage qu'aujourd'hui? Au jour de vos noces, c'est ça qui est beau. Et donc ça demande d'être proactif dans son couple. Et on voit des couples comme ça qui ont des années et qui ont un vrai compagnonnage, une vraie amitié, une vraie. Et on sent que ça, ils sont passés par l'eau et le feu et sortis dans l'abondance. Hein, et je trouve ça c'est beau, ça, de se dire, ben, on s'engage au fond à grandir dans l'amour. Et l'Église nous offre un chemin pour grandir dans l'amour à travers le sacrement du mariage. C'est une confiance qui vous est faite de la part du Seigneur. De bénir votre union en vous faisant confiance que ce don-là que vous recevez le jour de votre mariage, vous allez le faire prospérer, vous allez le faire grandir. Alors ça demande, c'est vrai que ça demande de combattre sa paresse, sa procrastination, de combattre son égoïsme, tout ça, c'est vous engager dans un combat spirituel, mes amis. Mais comme les copains, hein, je veux dire, c'est tout. Vous vous engagez dans un combat intérieur contre le désir d'avoir raison, l'orgueil, voilà, tout ça, c'est en nous, c'est en vous, c'est en moi. Et je pense que c'est bien à travers l'engagement, vous êtes au contraire, vous dites, qu'est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je peux donner que je n'ai pas encore donné? Troisième point, c'est les difficultés de l'engagement. Les difficultés de l'engagement. Plusieurs difficultés. Premièrement, la peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas être, le peur de pas être à la hauteur, la peur d'être infidèle. Parce que c'est vrai que le Seigneur met la barre assez haute, et à travers le sacrement du mariage, qui est signe, comme je vous l'ai dit hier, de l'amour de Dieu pour son peuple, donc je veux dire, c'est signe d'une réalité transcendante, et nous-mêmes, nous sommes bien limités et bien fragiles, eh bien, voilà, c'est. Parfois, on peut être. Mais aussi, on l'a vu hier dans la Bible, nous sommes la religion de la disproportion. Il y a quelque chose de disproportionné. C'est-à-dire que ce qui est demandé nous emmène bien au-delà de nous-mêmes. Bien au-delà de nous-mêmes. Et c'est là où on voit la confiance que le Seigneur nous fait. Il nous prend tel qu'on est, mais il nous emmène au-delà, bien plus haut. Il vise haut pour nous. Il veut quelque chose de grand pour nous. Ayez de grands désirs, mes amis. Des grands désirs pour votre couple. Des grands désirs pour votre famille. Ne vivez pas la petite semaine. Ce qui vous est proposé, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose qui met au large et le cœur et l'intelligence. La peur de ne pas y arriver. Deuxième point, la peur de la difficulté. Ce n'est pas tout à fait pareil. La peur de la difficulté. Et donc, derrière ça, la peur de souffrir. Forcément, quand vous vous engagez, eh bien, vous vous exposez. Vous dites à l'autre qui vous êtes. Vous montrez quelque chose. Et donc, peut-être aussi, vous vous exposez à la critique. Et on voit bien des personnes, qui n'acceptent pas ça, cette difficulté. Donc, par peur de la difficulté, préfèrent faire machine arrière. Et, hein, ce qu'on appelle le pusillanime. Vous voyez ce que c'est, hein, une personne pusillanime, hein, qui s'oppose au magnanime. Hein, magnanime, c'est magna anima, c'est une âme grande. Le pusillanime, c'est la petite âme. C'est celui qui vit petit, recroquevillé. Parce que justement, il a peur de la difficulté. Il n'a pas cette grandeur d'âme qui permet de donner sans compter. De ne pas regarder à la dépense de soi-même. Une autre peur, c'est la peur de se révéler. Je me découvre en me donnant. Et du coup, et singulièrement dans la vie de couple... Évidemment qu'il y a un don qui est fait, qui est très fort, jusqu'à la communion de toute la vie. Donc je suis, j'allais dire de cette manière, à nu devant l'autre, je suis complètement dévoilé. Et du coup je me dis, mais comment l'autre va m'accueillir? Quand il va voir en particulier mes blessures, quand il va voir mes incapacités d'amour, d'aimer, quand il va voir mes défauts, etc. Mais en même temps, comme c'est important de montrer tout ça. Dans l'étape où vous êtes. Vous êtes dans une étape de discernement. Il ne s'agit pas de montrer un tableau parfait. De toute façon, ça n'existe, on ne vous croira pas, premièrement. Et l'autre ne vous croira pas. Et deuxièmement, ça se sent quand quelqu'un, pour être aimé, veut montrer un tableau parfait. Ça se sent tout de suite. Il y a quelque chose qui est pas au rendez-vous, quelque chose qui n'est pas ajusté dans la relation, quelque chose qui est tendu, parce qu'on veut montrer un visage impeccable. C'est pas ça la vie humaine et l'amour humain. Nous sommes des êtres limités avec beaucoup de fragilité. Une étape, je trouve, de croissance dans l'amour, c'est d'accepter de montrer à l'autre ses fragilités. De vous découvrir dans ce sens-là. Hein, c'est vous, de montrer à l'autre, de ne pas avoir... Alors, progressivement, alors c'est vrai que si d'entrée de jeu, vous dites... j'ai un caractère de cochon, je supporte rien et j'ai une haleine de poney. Évidemment, ça peut tendre. Je veux dire, et l'autre, bon, c'est pour ça qu'il n'est pas interdit d'être intelligent. C'est-à-dire que c'est une certaine progressivité, vous voyez, pour pas faire fuir l'autre tout de suite. Mais à un moment donné, c'est important de montrer ses fragilités à l'autre. J'ai des choses que j'arrive pas à gérer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et on l'a vu hier avec la maturité, les blessures, etc. Voilà, maintenant, d'avoir cette humilité-là. La grâce vient par l'humilité. Et elle attire, l'humilité attire la grâce, attire l'amour de Dieu, attire. Alors que l'orgueil, au contraire, repousse. Mais attention, quand on accueille les fragilités de l'autre. Important de savoir comment est-ce qu'on va les gérer soi-même. Qu'est-ce qu'on en fait de ces fragilités? De ne pas en profiter pour manipuler, de le recevoir comme un vrai cadeau, un vrai don qui m'est fait dans la confiance. Les peurs liées au corps. Autre peur, les peurs liées au corps. Et bon, et dans la vie de couple, alors les peurs liées au corps, ça peut être le froid, la faim, le sommeil, la fatigue, etc. Bon, mais il y a des personnes qui sont très complexées par rapport à leur propre corps. Et donc, du coup, de ne pas vouloir, j'allais dire, de pas vouloir s'engager dans le mariage avec la communion des corps que ça implique après, parce que, voilà, parce que mon corps, je n'aime pas mon corps, je ne sais pas, etc., etc. Donc, il y a des peurs qui sont liées, ou la peur parce que c'est vrai que s'engager, ça demande une dépense, une démence physique. Le corps est sollicité pour tout. Donc, je trouve c'est bien de dire il peut y avoir ça. Il peut y avoir la peur du regard des autres, et singulièrement de la famille. Mais si je ramène un tel ou une telle à la maison, qu'est-ce que les parents vont dire? Qu'est-ce que mes frères et sœurs vont penser? Là aussi, libérez-vous du regard des autres. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Ce que les autres veulent pour moi, ce n'est pas très important. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut? Un autre danger, et là, je me permets d'insister, c'est qui est un obstacle à l'engagement, vouloir garder l'infini des possibles devant soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vouloir garder l'infini des possibles devant soi. C'est comme il y a une forme de jouissance à n'être engagé nulle part. Ça rejoint cette question de liberté. C'est comme un rond-point à 1000 sorties. Et du coup, je suis dans mon rond-point, je dis, ah, j'ai la jouissance, j'ai 1000 chemins devant moi. Mais quelque part, je veux en choisir aucun. Parce que si j'en choisis un, forcément, choisir, c'est renoncer. Du coup, les autres ne sont plus accessibles. Et ça, c'est plutôt masculin, j'allais dire, de garder l'infini des possibles devant soi, de voir justement, on voit l'engagement comme une menace, comme une fermeture à d'autres possibilités, non pas comme une fécondité pour ma vie. Et ça, je pense que c'est attention à ça, cette question de rond-point, de vouloir garder les choses. Il y a une forme d'orgueil. Et du coup, on veut garder l'infini des possibles. Et puis finalement, notre vie, elle ne porte pas de fruits parce que les autres, ben, on les voit, ils ont pris un chemin, et nous, ils ont pris un autre chemin, un troisième. Et moi, je suis en train encore autour de mon rond-point. C'est plus un rond-point, c'est un nombril. Et du coup, je tourne autour de mon nombril. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une vraie tentation, justement, qui est un frein à l'engagement. Autre tentation, c'est le perfectionnisme. Ce n'est jamais assez bien. Je ne suis pas assez prêt. J'ai encore des choses à travailler. Mais mes amis, vous mourrez que vous aurez encore des choses à travailler sur vous-même. Forcément. Et cette tentation du perfectionnisme, le pape Jean-Paul II, dans un très beau texte sur la spiritualité de communion, l'a identifié comme un obstacle à la communion. Le perfectionnisme est un obstacle à la communion. Parce que c'est un obstacle à nos propres humanités, qui sont des humanités plus ou moins équilibrées avec ce qu'on a reçu en famille et ce qu'on en a fait. Mais c'est des obstacles, hein, vouloir cette perfection. Et du coup, c'est mettre aussi une pression sur l'autre qui n'a pas le droit à montrer de sa fragilité. Et donc, s'il n'a pas le droit à se montrer sa fragilité, il ne peut pas être lui-même ou elle-même. Oui, ça se perfectionner, je pense que c'est aussi une vraie. Autre difficulté, c'est l'activisme. L'activisme, c'est-à-dire ce manque de vie intérieure, ce manque de repos, ce manque de. D'être pris dans une forme de tourbillon d'activité. Et singulièrement, je crois qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui viennent de Paris, c'est le danger d'une vie parisienne, où tous les soirs, vous pouvez être pris. Et même, vous pouvez être pris par des choses cathos, tous les soirs. Vous voyez, il y a tellement de profusion de propositions, sans parler des amis, des invitations, etc., etc. Pourquoi l'activisme est un obstacle à l'engagement? Parce que, premièrement, c'est un obstacle au discernement. ça ne permet pas de se poser et de voir où est-ce que je veux aller et où est-ce que je veux. C'est un obstacle pour ça. Et puis, c'est une forme de tourbillon. On est pris dans un tourbillon. Et quelque part, on n'est pas vraiment maître de sa décision. C'est souvent les autres qui décident pour nous par ces différentes propositions qui nous sont faites et auxquelles on n'ose pas dire non. Donc voilà, je trouve c'est intéressant de dire que quelle est la part aussi de soirées qui sont pour moi et où je n'ai pas peur de l'agenda vide, de la page d'agenda vide. Non, parce que c'est une soirée pour moi, où je lirai, où je me reposerai. Voilà. Quelle est la part de soirée pour vous deux, hein, si vous habitez la même ville, ou de temps qui sont pour vous deux. Voilà, ça fait partie aussi de. Autre tentation par rapport à l'engagement, et c'est la dernière, c'est la condensation du temps. La condensation du temps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, surtout pour la question du mariage. Waouh, je vais en prendre pour 50 ans au bas mot. 50 ans avec lui, avec elle, etc. Et du coup, on est pris de vertige, quoi, pratiquement. On est pris de. On se sent mal, on tombe de rampamoison, là. On ne sait pas ce qu'on fait, mais bon. Et du coup, on voit 50 ans comme une. Comme une entité, comme si c'était devant nous, et on devait se prendre pour 50 ans, s'engager pour. C'est pas comme ça, c'est une tentation. C'est pas la réalité. 50 ans n'existent pas. Qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, c'est aujourd'hui. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Qu'est-ce qui existe, c'est aujourd'hui. Et d'aujourd'hui en aujourd'hui, vous arriverez, et en regardant en arrière, vous direz déjà 10 ans. Déjà 20 ans, déjà 50 ans. Mais vous voyez, il y a une tentation du démon qui veut justement nous empêcher d'aller dans un engagement et de vous angoisser parce qu'il condense le temps. Et dans toute tentation, il y a un mensonge. Dans toute tentation, il y a un mensonge, c'est absolument clair. Et du coup, des personnes disent non, mais c'est panique face à. Surtout quand on voit, je veux dire, l'allongement de la durée de la vie. Du coup, forcément, on se dit que. Une grande partie d'entre vous mourra centenaire, par exemple. Mais j'allais dire, c'est pas la question, que ce soit, quelle que soit la durée de la vie, c'est ce quotidien, qu'est-ce que je mets en œuvre quotidiennement pour que mon couple avance? Qu'est-ce que je mets en œuvre? Voilà un peu ce que je voulais dire, lister les différentes difficultés de l'engagement. Les réponses à ces difficultés. J'en vois trois grandes réponses. Premièrement, la confiance. Ça, je vous l'ai dit hier, je n'insiste pas. Je ne m'engage pas parce que je suis sûr d'y arriver, mais pour y arriver. La confiance est dans les engagements. C'est important de voir les engagements que vous avez pris, parce que du coup, vous avez parfois été face à vos limites, et du coup, vous avez appris à compter sur le Seigneur. Vous avez appris à compter, à penser qu'on ne se débrouille pas simplement tout seul. Un autre point qui est une réponse, c'est la miséricorde. Oui, je n'ai peut-être pas été à la hauteur de certains engagements par rapport à ce qu'on attendait de moi. C'est possible. Ça se peut. Mais l'importance de la miséricorde. La miséricorde qui va faire justement que. Il y a toujours une deuxième chance possible. Il y a toujours un pardon possible. Et la grâce dans l'Église catholique du sacrement de la réconciliation, il y a toujours un pardon possible. Si j'ai un vrai désir de changer, j'ai un vrai désir de changement. Et c'est important, ça, c'est une grâce dans l'Église de pouvoir recevoir ça. Donc la miséricorde. La miséricorde que vous vous faites entre vous, où est-ce que vous en êtes dans les demandes de pardon mutuel? Et non pas simplement, j'allais dire, dire je m'excuse, parce que je m'excuse, c'est encore je me, etc. Je suis. Non, c'est pas pareil que je demande pardon. C'est pas du tout pareil. Hein, où est-ce que vous en êtes dans la pratique? Est-ce que vous avez. Quel est votre petit rituel de pardon entre vous? Est-ce que. Voilà, vous. Du coup, vous avez besoin d'entendre je te demande pardon. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette parole-là. Est-ce que vous avez besoin ensuite de prendre, de faire un grand hug, etc., de vous prendre dans les bras et de un gros câlin, etc., de base? Ben oui, ben ça fait du bien. Donc, du coup, faut pas s'en priver. Donc, voilà, pour voilà, se dire, voilà, c'est. Mais c'est important d'expérimenter ça, d'expérimenter qu'on a pu blesser l'autre en le voulant, sans le vouloir, etc. Et que voilà, voilà, je suis aussi en chemin. Mais il y a une autre chance. Et ça, c'est vraiment la grâce d'être dans l'Église. C'est vraiment, on a ce sentiment, c'est les catholiques et les orthodoxes aussi ont le sacrement de la réconciliation. Les protestants ne l'ont pas, et les autres religions ne l'ont pas. D'avoir un ministre qui, au nom du Seigneur, par sa grâce de l'ordination, donne le pardon. Et puis, un dernier point sur la réponse aux difficultés, c'est l'accueil de ses limites. Parce que derrière toutes les difficultés que j'ai pu nommer, il y a beaucoup la question de la limite. La question de ses fragilités. D'avoir cette simplicité, cette humilité de dire, d'accueillir ses limites et de les accueillir telles. Voilà. Derrière ça, c'est sortir de la toute-puissance. Sortir du fait qu'on peut tout à tout moment et qu'on est capable de. Voilà. Sortir de la toute-puissance. Qui s'oppose à l'amour? Qui s'oppose à la communion? Mais faire de vos limites une source de communion. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est faire de ses limites une source de communion. Parce que je les mets avec toi et je me confie à toi et que tu me. Ben, ça peut devenir même une force. Hein, la grande parole de Saint Paul, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tout le mystère chrétien qui est résumé là. Dernier point, dernier chapitre, c'est là les fruits de l'engagement. Les fruits de l'engagement. Ce sont au fond les fruits du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous le savez, c'est le don du Père et du Fils. C'est cet amour du Père et du Fils qui est la personne même du Saint-Esprit. Et donc, les fruits du Saint-Esprit, ce seront les fruits du don. Et s'engager, c'est se donner, comme on l'a vu. Et vous trouvez ça en Galates, la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, 5, 22. Et je les énumère. Charité, joie, paix, patience, longanimité. Vous savez ce que ça veut dire, longanimité? Longanimité, ça veut dire quelque chose. Alors, avoir l'âme longue. Est-ce que vous avez une âme longue? Est-ce que vous avez déjà mesuré votre âme? La longanimité, c'est avoir le souffle long. Alors, je sens que nous sommes très seuls là en ce moment, mais avoir le souffle long, ça veut dire quoi? Comme un cheval, le cheval, il est long, il a un souffle, c'est-à-dire qu'il s'épuise pas. Quelqu'un qui a un souffle trop court s'épuise très rapidement. Celui qui a le souffle long, enfin, certains qui sont peut-être des cavaliers, cavalières, voilà, d'avoir le souffle, un cheval qui a un souffle longanime, c'est qu'il tient la distance. Il ne se décourage pas il tient sur la distance, quoi. C'est pas juste un gros truc au début, on y va à fond, et puis 2 ans après, il n'y a plus rien, quoi. Parce qu'on a déjà tout donné, et on n'a plus d'huile dans le moteur, on a plus, les batteries sont à plat. Ça va être longanime. Bonté, bénignité, vous allez apprendre du vocabulaire, bénignité, sais pas comment est-ce qu'on peut définir la bénignité. Je vais dire, ça peut être pratiquement. De la nocivité, par exemple, bénignité, oui. Et donc, du coup, c'est le contraire de la nocivité. J'allais dire vouloir le bien. Je veux dire bienveillance. Moi, je l'assimilerais ça à bienveillance. Hein, vouloir le bien. Bénignité. Mansuétude. Mansuétude, c'est une forme à la fois de générosité, de comment est-ce qu'on peut dire ça, mansuétude? Je pensais pas que j'allais faire du vocabulaire avec vous, mais un peu compassion, oui. Compassion, tu as mansuétude, compassion, oui, une certaine compassion. Continence, qui fait partie des fruits du Saint-Esprit, donc la maîtrise de soi, continence avec ou chasteté, hein, ça, bon, voilà, c'est la... Et puis, dernier fruit du Saint-Esprit, maîtrise de soi. Demander au Saint-Esprit, voilà, de ne pas avoir des réactions qui nous échappent à nous-mêmes, qui sont excessives, qui sont disproportionnées, etc., etc., mais de demander, et donc, chaque fois que vous êtes en lien avec le Saint-Esprit, ben vous, et vous repart, alors je pense aussi à la question de la confirmation, s'il y en a certains d'entre vous qui ne sont pas confirmés, pourquoi c'est important la confirmation? Parce que dans la confirmation, il y a les plénitudes des dons du Saint-Esprit. Donc vous recevez par le sacrement de la confirmation, vous l'avez reçu le Saint-Esprit au moment du baptême, mais la confirmation vous fait de vous des hommes et des chrétiens adultes. Donc pensez, parfois on est allé jusqu'à la communion parce que c'est les parents qui insistaient, etc. Mais après, ou profession de foi, mais après on n'est pas allé à la confirmation. Mais pensez là à l'étape où vous êtes, à la question de la confirmation. Parce que ça fait de vous des chrétiens. Je me marie à l'église parce que je vais être aussi un chrétien debout et un chrétien adulte. Et la confirmation, je vais être confirmé dans mon statut de chrétien. Je veux être, voilà, je reçois la confirmation et je vais être confirmé par la plénitude des dons du Saint-Esprit. Autre fruit de l'engagement, c'est la croissance spirituelle. Je vous l'ai déjà dit, j'ai appris à compter sur le Seigneur. Et dernier point du fruit de l'engagement, la croissance humaine. Je suis allé au-delà de mes peurs, au-delà de mes limites. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette question de l'engagement.